Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Maryse Beaulieu qui vient nous faire découvrir la Fondation Cerveau. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre poursuit avec son sujet ce que les épreuves nous enseignent. Notre collaboratrice Catherine Stassin est avec nous en début de deuxième demi. Elle nous parle de parrainage professionnel. On commence en chanson avec les Sœurs Boulay. La chanson s'intitule « Devant l'homme et le monde ». Bienvenue à Folie Douce.
Soyez malin, peu enclin, radin ou épicurien, vous êtes à Folie Douce.
J'accueille maintenant mon invitée, Mme Maryse Beaulieu. Bonjour, Mme Beaulieu.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes directrice générale de la Fondation Cerveau, qu'on va apprendre à mieux connaître. Ouais.
Oui, c'est ça.
Et comment on peut décrire la Fondation Cerveau?
Bien, en fait, nous, on est une fondation qui soutient directement toutes les activités de santé mentale et dépendance dans le CIUSSS de la Capitale-Nationale. Alors, on couvre vraiment tout ce qui est de la Malbaie jusqu'à Portneuf. Alors, tout ce qui se fait en soins directs, en hospitalisation, en soins dans la communauté, mais aussi en recherche, que ce soit chez les enfants, chez l'adulte. Alors, nous, on accompagne tous les intervenants financièrement, dans le fond, pour qu'ils assurent les meilleurs soins possibles, puis aussi qu'on puisse innover dans la pratique des soins santé mentale et dépendance.
Et comment est née ou quand est née cette fondation?
Ben, en fait, la fondation est née en 1977. C'était des employés à ce moment-là du centre Robert Giffard. Hein. Tout le monde connaît Robert Giffard de son nom d'il y a jadis. Alors, les employés s'étaient assemblés parce que à ce moment-là, c'était pratiquement une ville. Hein. Si vous vous rappelez, il y avait près de 6 000 personnes qui étaient hospitalisées à Robert Giffard. Alors, il y avait beaucoup de services à l'interne, mais il y avait quand même des besoins. Alors, souvent, en santé mentale, les gens sont laissés à eux-mêmes. Les relations sont tendues avec la famille, etc. Fait qu'il y avait quand même des besoins, déjà à ce moment-là, de base, qui n'étaient pas comblés. Alors, les employés s'étaient rassemblés pour amasser quelques dollars pour vraiment aider. Et puis, au fil des ans, ben, ça a pris vraiment une plus grande importance. Avec les désinstitutionnalisations, pardon, et tout ça, ben, c'est certain qu'on a amélioré les services, on a, avec l'argent, vraiment, on a fait plus de choses, mais en fait, au départ, c'était ça, c'était vraiment des employés qui étaient vraiment gentils, qui avaient vraiment envie d'aider, qui ont démarré là, cette collecte de fonds-là.
Qu'est-ce qui différencie justement une fondation comme la Fondation Cerveau et le ministère, là, d'habitude, qui finance les soins de santé? Ouais. Comment on peut voir la différence, justement?
Ben, en fait, la différence, c'est que nous, on ne s'insère pas dans les soins directs, je dirais. C'est-à-dire que tout ce qui dépend, tout ce qui devrait être payé par le ministère, c'est-à-dire quand on est hospitalisé, on mange, on est soigné, on a de la médication. En fait, on a tous les services de base à l'hôpital, mais ça, nous, on ne s'insère pas là-dedans. On ne paiera pas, par exemple, le salaire d'une infirmière. On ne paiera pas non plus ce que ça prend au médecin pour faire sa tournée dans la journée. Ce qu'on va plutôt faire, nous, c'est voir avec eux quand le ministère n'a pas nécessairement les moyens de valider une nouvelle technique ou une nouvelle machine ou des choses comme ça, ben on peut peut-être à ce moment-là participer financièrement à acquérir ces équipements-là. Mais aussi souvent, comme on donne beaucoup de sous pour les salles multisensorielles. Alors, c'est certain que d'acheter des crayons de couleur puis des mandalas pour le ministère, c'est un peu bizarre. Alors, nous, on a vraiment, avec une unité de soins, bâti une salle qui vraiment peut donner le choix aux usagers qui sont hospitalisés de venir se reposer là. Donc, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on les mettait dans une salle capitonnée, puis on pensait que les crises, ça s'estompait avec ça. Maintenant, ce qu'on fait, c'est plutôt on leur permet d'entrer dans une salle comme celle-là où ils sont vraiment libres de choisir qu'est-ce qui va leur faire du bien. Alors, une fois que ça aura fait ses preuves, bien, ça va peut-être s'instaurer dans le suivi thérapeutique. Fait que nous, ça nous permet de travailler avec les équipes pour mettre des innovations sur place. Puis après ça, bien, on laisse la place là au ministère ou du moins au CIUS pour que ça devienne monnaie courante dans leurs soins quotidiens. Mais pour ces innovations-là, puis faire le test, bien, souvent, nous, on est aux premières lignes. La même chose avec les équipes de recherche. En fait, on ne vient pas se substituer à payer la recherche, mais les grandes institutions souvent de recherche demandent un pourcentage de fonds privés pour venir pallier. Alors, si, exemple, il y a des projets qui sont subventionnés, ben on demande souvent un 20% ou un 10% pour venir aider à ce que le financement se complète. Alors, c'est là où nous, on intervient. Puis aussi, de temps à autre, on donne des bourses aussi à des jeunes médecins, des choses comme ça, ce qui ne se ferait pas par le ministère. Le ministère n'a pas donné de bourse. Par contre, il peut payer les salaires. Donc, c'est deux choses totalement différentes. Ça permet vraiment de spécialiser là, les étudiants, des choses comme ça. Fait que nous, on ne se substitue jamais, mais on est toujours là à côté à voir ensemble comment on peut mieux faire les choses avec l'argent que nous, on a disponible.
Les salles multisensorielles, ça évoque quelque chose d'intéressant de mon côté. J'aimerais en savoir plus. En fait, c'est donc vous faites vraiment comme un projet pilote, puis vous allez voir un peu les retombées, puis les demandes. Est-ce que la réponse est bonne quand même des usagers?
Ouais. À ce jour, en tout cas, ce qu'on a fait, on l'a fait sur deux ou trois manières, là. On a testé plusieurs façons de faire. Alors, on a vraiment une salle complète qui a été refaite. Alors, c'est un plancher qui est plus mou. Alors, quand on entre dans cette salle-là, quelqu'un qui la verrait dirait, mon Dieu Seigneur, vous me dites pas que c'est quelque chose qui fonctionne. Mais oui, c'est une pièce qui est blanche, tout simplement. Il y a un grand tableau au mur. Il y a un vélo stationnaire, un fauteuil, là, vraiment, ailerant, une place. Ensuite, il y a un gros coussin au sol dans lequel on peut s'asseoir. Pour le divan, il y a une couverture lourde. Il y a un iPad où les gens peuvent aller écouter de la musique. Il y a une lampe qui fait, tu sais, comme un peu dans la chambre des enfants qu'on met des fois, qui va refléter plusieurs couleurs. Fait qu'il y a toutes sortes de petites choses comme ça. Il y a une petite chute, là, en tout cas, puis il y a aussi des odeurs. En tout cas, on a vraiment plein de choses. Fait que chacune des personnes qui vient s'installer dans cette salle-là pour une 15-20 minutes, pas plus que ça, mais c'est quelqu'un souvent qui se dit, moi, je sens venir la crise, je ne vais pas être de bonne humeur, puis ça, tu sais, je le sais, là, je la sens venir. Alors, au lieu d'être en réaction à eux, puis d'être nous aussi un peu agressifs ou de mal réagir, ils ont l'opportunité d'aller là. Et puis, soit ils mettent de la musique, soit ils font du vélo, soit ils mettent juste la couverture lourde sur eux. Ça leur fait du bien. Puis, une des choses qui marche bien aussi, c'est de prendre une glace et puis de mettre ça dans la bouche. Alors, ça fait diminuer aussi les effets d'une dépendance qu'on n'a pas quand on est en sevrage, mais ça fait aussi aider à faire diminuer l'anxiété. Fait que des fois, là, c'est des petites choses très simples, mais qu'ils peuvent faire seuls, puis à l'abri aussi de d'autres regards où ils se sentent vraiment dans un milieu qui est comme à part de l'hospitalisation. Ça leur fait vraiment du bien, ça permet de faire diminuer la crise. Ça, c'est vraiment dans des unités de gens avec des troubles de l'humeur sévères. Par contre, dans des unités en psychiatrie gériatrique, par exemple, ça va être plutôt des images sur les murs à divers endroits qu'on va mettre qui va leur rappeler des choses intéressantes. Ça peut être un paysage, ça peut être en fait une bibliothèque, ça peut être n'importe quoi comme ça, mais ces gens-là qui sont souvent un peu de démence ou de l'errance, ben vont pouvoir s'installer puis regarder ces paysages-là puis se sentir vraiment mieux, vont avoir vraiment les sensations qui vont se développer différemment au lieu d'être en crise d'anxiété ou en agressivité, vont vraiment voir diminuer là, les symptômes. Fait que ça, on a différentes façons de faire qui font en sorte qu'on intègre le multisensoriel aux soins, puis ça permet vraiment là, aux intervenants là, de faciliter leur travail.
Et à votre connaissance, c'est un projet assez unique au Québec?
Ben, en fait, il existait déjà ce qu'on appelle les chambres Snozeland, là, qui est un peu un concept où la lumière, les odeurs, les textures existent. Donc, c'est basé sur différentes choses qui existent dans le monde, qu'on a mis en commun, puis pour lesquelles on vérifie chacune des validités. Pour certains, écrire sur le tableau des choses, leurs émotions, etc., ça leur fait du bien. Après, ils l'effacent, c'est terminé. Pour d'autres, ça va être de vraiment s'attabler et faire un mandala. Donc, en fait, on regarde chacune des personnes qu'est-ce qui lui fait du bien, puis ça lui permet aussi de reproduire ça quand il va être dans son quotidien, quand il va être sorti de l'hôpital. Alors oui, c'est des choses qui existent un peu partout. De cette manière-là, je peux pas vous répondre exactement, mais c'est certain que c'est basé sur plein de choses qui ont déjà existé, qu'on a mis en commun. Alors, puis ce qui est vraiment important pour nous, c'est que les gens puissent le refaire à la maison. Alors, ça sert à rien de faire quelque chose qui coûterait très cher ou qui leur obligerait à, mettons, rénover leur appartement. C'est pas ça qu'on veut. On veut que ce soit quelque chose de simple, qu'ils vont pouvoir reproduire puis qui va les aider à calmer là, leurs angoisses ou leurs symptômes.
Alors, c'est intéressant, c'est un beau projet. Là. Donc, la Fondation oui. Cerveau encourage ce genre d'initiative-là. C'est intéressant de le savoir un peu plus en détail, mm-hmm. comme ça on comprend vraiment bien le côté pratico-pratique de la Fondation. Oui. Du côté administration de la Fondation, vous fonctionnez comment? Il y a des donateurs qui vous aident à fonctionner. Vous avez besoin de fonds, évidemment, pour oui, vous-même en redonner.
Ouais. Oui, bien, en fait, si on veut redonner, il faut en avoir à la base, mais oui, on a une belle base de donateurs, des gens qui nous suivent depuis longtemps, puis on a aussi des gens qui apprennent à nous connaître, parce qu'auparavant, on avait un nom un petit peu moins sexy, là, qui était la Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Alors, pour les gens, ça évoquait moins un peu la mission qu'on a actuellement. Alors, depuis qu'on est Fondation Cerveau, on a beaucoup de gens qui nous ont découverts. Alors, ce qu'on fait, c'est que nous, on agit beaucoup aussi sur la sensibilisation. Alors, s'il y a des entreprises qui ont besoin qu'on leur donne des outils pour aider parce qu'ils ont des employés qui vont moins bien, on est vraiment là en première ligne pour aider à faire en sorte que les gens acceptent d'en parler puis acceptent aussi d'aller en parler avec un médecin de famille, par exemple, pour être traité. Fait que nous, ben ces gens-là, on essaie de les aider du mieux qu'on peut en leur offrant des services, donc les entreprises. Et puis, on amasse de l'argent via des activités, des événements, mais surtout aussi là, en one-on-one avec les gens, on essaie vraiment de comprendre ce qui les intéresse, puis on essaie de respecter leur choix de, par exemple, si quelqu'un veut vraiment, lui, son argent, veut l'investir en recherche, bien nous, on respecte ça de façon importante. On pense que c'est au donateur de choisir ce qui l'intéresse. Alors, on a plusieurs façons là, de donner à la Fondation. Quand quelqu'un décède, par exemple, on a les dons en mémoire, on a aussi une campagne importante là, qui roule pour la recherche parce qu'on s'est engagé à donner 10 millions de dollars à la recherche au Centre de recherche Cerveau, qui a le même nom que nous, parce que ce centre de recherche-là est vraiment en avant sur plein de découvertes importantes, surtout sur le dépistage précoce chez les enfants. Alors, des enfants qui sont dans des familles à risque, par exemple, où le papa, la maman ou un grand-parent, ou en fait, où il y a plusieurs personnes, plus qu'une personne, mais des gens qui l'entourent, qui ont déjà des diagnostics en lien avec les maladies du cerveau, mais on peut les prendre dès un bas âge, puis on leur fait passer un ERG en complément avec ce que le médecin va vraiment regarder chez l'enfant, va diagnostiquer, puis on va pouvoir mieux les accompagner pour que la maladie se déploie de façon moins importante. Alors, en dépistant plus précocement, ben on évite que, par exemple, à 15 ou 16 ans, un jeune décide de s'automédicamenter avec la drogue. Alors, s'il sait déjà qu'il est prédisposé à avoir une maladie, ben on va pouvoir l'aider à mieux gérer son environnement puis à voir venir les signes et symptômes plus rapidement. Donc, ça ne dégénérera pas, par exemple. Fait que, tu sais, c'est vraiment là-dessus que planent, entre autres, nos chercheurs. Et puis, on est vraiment très content de pouvoir les aider là, à la hauteur de ce 10 millions-là là, dans les prochaines années. Donc, les gens peuvent donner directement là. Ils peuvent vraiment venir à nos événements, nous appeler directement. Il y a aussi les dons planifiés, bien sûr, les dons par testament, les dons de police d'assurance. Alors, il y a vraiment plusieurs façons différentes de nous aider financièrement.
Soit dit en passant, la Fondation Cerveau, ça s'écrit aussi CERVO. C'est attirant comme nom parce que c'est comme on sent que c'est plus moderne que le cerveau VAU. Là.
Oui, puis aussi, ce qui arrive, c'est que nos chercheurs sont internationaux. On a beaucoup de chercheurs de l'étranger, des gens qui sont vraiment des sommités. Donc, on voulait que ça soit exportable aussi dans les deux langues. Ça se dit bien dans les deux langues. Ouais. Puis aussi, c'est plus moderne, effectivement. Puis, ça fait moins peur aux gens. Nous, ce qu'on dit toujours, c'est la raison pour laquelle on a choisi cerveau. C'est parce que quand on parle de maladie mentale, il y a des préjugés énormes. Les gens pensent encore que c'est de la paresse, ils se forcent pas, mais tu sais, le cerveau, c'est un organe. Et quand il y a un organe qui est atteint, ben il y a une maladie qui vient avec ça, puis il y a des façons de traiter ça. Alors, quelqu'un qui a une maladie de rein, il n'est pas gêné d'en parler. Alors, quelqu'un qui a une maladie du cerveau ne devrait pas être gêné d'en parler ou du moins ne devrait pas avoir honte à ne pas sortir de chez lui.
Oui.
Donc, nous, ce qu'on prône, c'est de l'utiliser, ce mot-là, beaucoup plus que mental. Quand on dit que quelque chose est mental, c'est un peu abstrait, mais quand on parle d'un organe plus précisément, ben ça réfère à une partie du corps humain qui peut être, en dysfonctionnement, puis on peut vraiment faire quelque chose pour aider.
Oui,
il y a des techniques de soins exceptionnelles maintenant qui permettent aux gens de vivre une vie normale.
Oui, en terminant, les coordonnées pour en savoir plus justement sur la Fondation Cerveau, ce serait peut-être le site web?
Oui, bien sûr. Alors, fondationcervo.com, notre site web, ou sinon, on peut nous appeler sans aucun problème, 418-663-5155.
Maryse Beaulieu, donc directrice générale de la Fondation Cerveau, merci beaucoup d'avoir été des nôtres à Folie Douce et bonne continuation.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
L'amour dans les poches, debout devant rien plus. Grand chose m'accroche, j'ai perdu trop de terrain. J'espère être en route pour ce que sera ma vie. Que l'amour gagne la course, moi j'ai le cœur qui vieillit. Que peur se lève les whisky amers, les amours, les amants. Et que peur se lève. Je garderai derrière ce qui empêche d'aller. La lumière dedans des fenêtres qui donne sur un balcon où j'irai me bercer tranquillement. Fini les vents contraires, bourrasque et tourmente. J'ai dans mon cœur de mer tout ce qu'il me faut maintenant. Et que amen.
Nous sommes bien présents sur Facebook. Cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Folie Douce, une communauté, une radio.
Nous voici maintenant rendus au bloc espresso et tel que promis la dernière émission, Pierre, tu poursuis avec ce que les épreuves nous enseignent.
Exactement. Je trouvais que c'était tellement un bon sujet. En fait, ça touche tout le monde. On traverse tous des épreuves et c'est vrai qu'on apprend de nos épreuves. Alors, je voulais continuer là-dessus. C'est un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle effectivement « Ce que les épreuves nous enseignent ». Et c'est écrit par Mme Isabelle Taube, qui est journaliste française. Et comme je disais, ce n'est pas la première fois que je reprends de ces articles. Je trouve que c'est toujours intéressant. C'est sur le site psychologie.com. Alors, j'étais rendu au point où je disais, Mme Taube nous disait « Affronter une épreuve n'est pas une performance, c'est l'intégration d'un art de vivre. Un art de vivre qui passe par l'acceptation des épreuves de l'existence et des transformations qu'elles impliquent. Les épreuves rendent-elles plus résistants? » Alors, Mme Valérie Blanco, qui est psychothérapeute française, elle dit « Oui ». Elle nous force à mobiliser nos forces vitales. Elles permettent d'acquérir, selon elle, un nouveau savoir-faire avec le manque et l'angoisse. Cependant, dit-elle, l'accumulation de difficultés use. Et ça, c'est vrai. C'est parce que c'est beau de traverser les épreuves, mais quand ça en a fait plusieurs que tu passes, là...
Et ce que je me dis aussi, c'est peut-être facile à dire comme ça, mais quand quelqu'un a des épreuves très, très dures étant jeune, peut-être c'est difficile aussi d'avoir la sagesse de dire qu'on apprend de nos épreuves. Tu sais, quand ça, la vie nous laisse le temps d'accepter
quand
certaines épreuves.
Quand on n'a pas goûté à d'autres choses.
Ouais, ou pas trop d'épreuves trop graves, donc ça, peut-être qu'on est plus blindé, si on veut.
Oui, c'est possible. Mme Taube poursuit en disant « L'ambiance compétitive de notre époque laisse croire qu'un individu doté d'un moi fort s'en sortira mieux. » M. Olivier Douville, qui est psychothérapeute français, nous dit « Ce point de vue me semble dangereux, car susceptible de déboucher sur une psychologie opposant des êtres supérieurs sans faille à des sous-hommes faibles. » Il nous dit « Au contraire, nous devons chercher un soutien. » Nous rapprocher de ceux qui ont traversé des expériences similaires, car on ne sort jamais seul d'une épreuve majeure.
C'est vrai. En général, y a toujours quelqu'un quelque part qui va pouvoir nous aider, même si on est une personne seule.
Surtout ceux qui ont traversé la même chose.
C'est ça, oui.
Mme Taube nous dit, il y a une trentaine d'années, la notion de résilience était absente de notre vocabulaire. Aujourd'hui, grâce à l'œuvre du neuropsychiatre et psychothérapeute Boris Cyrulnik, et en particulier de son livre « Un merveilleux malheur » paru en 2002, dont j'avais déjà parlé, cette expression est tombée dans le langage courant. C'est vrai qu'il y a plusieurs années, on ne disait pas ça, hein, être résilient, la résilience, on dirait avoir de l'endurance.
Ouais. Les gens l'étaient, mais on n'employait pas le mot.
Exactement.
C'est vrai, ça,
oui. Mme Taube nous dit « Au point que nous l'employons fréquemment à mauvais escient, je suis résilient signifie trop souvent je suis capable de rebondir, je m'en suis sorti donc je suis solide, je possède une grande force intérieure. Or, la résilience n'est pas un trait de personnalité ni une qualité comme la bonté ou l'avarice, définie par Boris Cyrulnik comme l'art de naviguer sur les torrents. Elle est un tricotage, entre guillemets, un réajustement qui se poursuit tout au long de la vie. On guérit définitivement d'une maladie. En revanche, on n'enterre jamais un traumatisme ou le souvenir d'une épreuve majeure. Chaque jour, nous allons nous reconstruire. Et la résilience ne tient pas de la performance ou de l'exploit personnel. Elle passe toujours par les autres, les amis, ou les partenaires amoureux, mais aussi les inconnus généreux qui nous orientent vers la bonne information, ou les membres des groupes de soutien qui nous aideront à émerger. On peut les appeler des tuteurs de résilience.
C'est bon, ça.
Ouais. Quoi de plus difficile à affronter que le drame, nous dit Isabelle Taube, l'épreuve et la catastrophe? Faut-il, pour les surmonter, leur accorder une signification et risquer de verser dans la pensée religieuse, soit la rédemption des péchés et le pas vers la vie éternelle? Ou, au contraire, verser dans l'absence de sens et ne considérer les épreuves que pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire un hasard tragique dont les humains se sortent comme ils le peuvent. Le philosophe Pierre Zawi propose une autre voie passionnante, pardon, et laïque. Il nous dit « Subir une épreuve, c'est passer de l'autre côté des apparences. À l'instant où l'ordre et le sens de ce que l'on vivait volent en éclats, nous sommes projetés dans un temps où soi-même, les autres et le monde changent de valeur. C'est le chaos de Nietzsche, philosophe et compositeur allemand, qui, en nous dépouillant, nous permet de découvrir la face cachée de la vie, y compris lorsque la force nous quitte. Par-delà le scandale du malheur, c'est au tissu même de la vie que nous sommes pris, car, nous dit Pierre Zawi, le bonheur n'est pas l'inverse des catastrophes. Il peut se préserver et même surgir avec elles, entre elles, voire par elles. Mais le bonheur n'est pas non plus leur fin. Et pourrait ajouter bien des victimes. Au cœur de l'épreuve peuvent surgir des pépites de joie et de sens.
C'est poétique quand même.
C'est poétique, c'est vrai.
Mais ça fait réfléchir, c'est pas mal intéressant.
Ça fait réfléchir et c'est dur de ne pas être d'accord avec tout ça. Maintenant, je vais passer à autre chose. Tu sais qu'à l'occasion, j'aime arriver avec des citations célèbres, des grands personnages,
oui, oui. Ben oui.
Des poètes, des politiciens, des grands artistes.
En peu de mots, des fois, ça veut dire beaucoup. C'est
oui,
ça, c'est
je trouve qu'on apprend beaucoup. Alors, en voici une écrite par M. Raymond Lecourt, écrivain. Il avait dit « Malgré les épreuves, il faut continuer de sourire à la vie ». Autrement, elle se fâche et coupe vite le courant à ceux qui ont cessé de croire en elle et de l'aimer dans la souffrance comme dans la joie.
C'est bien.
C'est bien dit, en effet. Il y a aussi...
Une deuxième, peut-être avant d'aller à la pause.
Oui, de M. Laurent Gaudet, qui est un écrivain français qui est aujourd'hui décédé. Il avait dit « Les épreuves de la vie l'ont forcée, l'ont enlevée à l'existence qu'elle avait espérée, mais elles ne lui ont pas... » Fait baisser les yeux.
On va poursuivre avec ça, avec qui ont rapport à ce que les épreuves nous enseignent. On
Exactement.
Va poursuivre à l'espresso allongé. Merci.
La santé mentale est toujours au cœur de notre quotidien. Nos chroniqueurs vous présentent leurs sujets.
C'est avec plaisir que j'accueille notre chroniqueuse Catherine Stassien. Bonjour Catherine.
Bonjour Yvan.
Alors aujourd'hui, le sujet que tu nous amènes, c'est parrainage professionnel. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Alors, en fait, le parrainage, c'est une activité qui permet d'aider le chercheur d'emploi dans sa recherche. Quand, en fait, à un moment donné, quand on est au chômage et que ça peut durer, il y a des répercussions identitaires parce qu'il y a du découragement,
ouais.
Il y a quelquefois même de la résignation. Alors, on croit peut-être pouvoir s'en sortir toujours tout seul, mais en fait, c'est une bonne idée peut-être d'aller voir... un parrain, voire chercher des programmes de parrainage. Bon, je vais vous expliquer un peu plus en quoi ça consiste et pourquoi c'est une activité aussi bénéfique pour le chercheur d'emploi et aussi pour le parrain.
Ça peut devenir effectivement déprimant de ne pas trouver d'emploi et de ne pas avoir l'espoir d'en trouver. C'est pas évident. Hein? Quand on est dans une situation, l'emploi est tellement important pour la santé mentale d'une personne.
Exactement. Et c'est pour ça que je voudrais commencer par quelques petits témoignages. Les personnes disent « Oh, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais même pas si j'aurais dit « J'ai un CV comme il faut. Je ne sais pas quoi mettre dans ma lettre de motivation. Ouais. Je ne vois plus mes amis parce que je pense qu'à ça. En même temps, je n'ai plus de moyens pour sortir et dépenser. »
Et on n'a plus d'identité. Et souvent, les gens s'identifient comme leur emploi du temps. Donc, ça ne devrait pas être que
voilà.
ça. Mais
dans
ça...
nos sociétés, en effet, c'est souvent, on est identifié à ce qu'on fait.
Oui, on dit souvent, ben bon, qu'est-ce que tu fais
à
dans
qui
la
on
vie?
Est.
Puis qu'est-ce que, c'est ça,
ouais.
Souvent, on associe la personne, l'identité de la personne est reliée à son emploi.
C'est sûr. Alors, ça peut être d'autant plus difficile pour cette personne-là. Alors, en fait, c'est quoi véritablement cette activité de parrainage? C'est véritablement un accompagnement parrain d'un chercheur d'emploi pour l'aider via une série d'activités à justement un petit peu reconstruire, le remotiver et aussi l'aider dans son intégration pour éventuellement trouver un emploi.
Mmh.
Alors, il est certain qu'ils vont avoir... c'est véritablement un tandem. Hein. Ce parrain et ce chercheur d'emploi, ils vont avoir des activités ensemble. Ils vont se rencontrer et le parrain va apprendre au chercheur d'emploi à rédiger un CV, mais pour chaque offre d'emploi qu'il a sélectionnée. Aussi faire une analyse spéciale de chaque offre qu'il trouve pertinente. Peut-être que le parrain va dire, oui, mais cette offre-là, est-ce qu'elle colle vraiment à tes projets? Quand tu décryptes véritablement l'annonce, est-ce que ça te convient? Alors, si oui, on rédige une lettre et un CV sur mesure.
Donc, le CV passe-partout, ce n'est pas une très
bonne
idée.
Ce n'est pas une bonne idée. C'est sûr que quand on n'a pas encore travaillé de sa vie ou qu'on a fait un job d'étudiant, ça peut passer partout, c'est sûr, ou le job d'étudiant. Un CV générique, ça peut être bon, c'est certain. Ouais. Mais c'est sûr que par après, comme adulte, il faut essayer de coller un petit peu parce que les gens en ressources humaines, ils n'ont pas des heures à lire entièrement, ils peuvent lire de manière un petit peu transversale et puis ils vont voir s'ils retiennent.
Pour accrocher l'attention tout de suite. Voilà. Il ne faut pas que ça soit long, en fait, des CV de 3-4 pages. Je pense que
les lettres non plus.
C'est jamais très bon. Il faut que ça soit. Au pire, on s'expliquera en entrevue, mais il faut attirer l'attention, accrocher.
Voilà, et accrocher aussi aux exigences de l'annonce, par exemple. Moi, je ne suis pas un expert dans ce domaine-là, mais vraiment, les parrains, eux, vont aider dans ce sens-là le candidat, lui redonner confiance. Il y a aussi même des simulations d'entretien. Donc, la personne qui n'est plus à l'aise, qui perd confiance, ben, lors d'une simulation d'entretien, on va lui dire ce qui va bien et ce qui ne va pas bien. Donc, c'est bien. Il y a des choses qui vont bien.
Et peut-être avoir des exercices, même de questions un peu tordues ou en tout cas pour se préparer, ça peut arriver.
Pas tordues, mais quand on est nerveux et qu'on arrive à une entrevue, même une question pas tordue, on risque de peut-être mal y répondre. Donc, il y a tout un ensemble de codes d'entreprise dépendant de l'entreprise où on va aller, où il faut développer un certain vocabulaire. Donc ça, le parrain peut aider et développer cet ensemble de codes psychosociaux et de langage éventuellement lors des simulations avec le parrain.
Ouais.
Donc ça, c'est vraiment le parrainage professionnel typique. Donc comme on l'imagine, on est chômeur, on va au centre local pour l'emploi et on demande à bénéficier d'un programme de parrainage. Il y a aussi des grandes entreprises qui ont des programmes de parrainage. Donc, il faut se renseigner un petit peu.
Donc, les services gratuits, d'une certaine façon, au centre local.
Au centre local d'emploi, tout à fait.
Ouais.
Ça, c'est important de le savoir. Il y en a un peu partout. Plus tard, je donnerai des coordonnées et il y en aura sur le site, évidemment.
Et autant on dit qu'il y a un manque d'employés dans les entreprises, mais autant les entreprises sont plus pointues, je pense, quand ils recherchent des candidats. Fait qu'il faut vraiment être prêt, là.
C'est ça. Il faut comprendre aussi le point de vue de l'employeur. Qu'est-ce qu'il cherche et pourquoi il cherche une personne comme ça?
Ouais.
Comment est-ce que je colle à ce profil, à ces exigences? Bon, évidemment, on ne va pas inventer, évidemment, un CV. Mais on peut très bien, en utilisant le bon vocabulaire, si notre profil correspond quand même, aller réussir. Ça peut être une différence entre une entrevue réussie ou pas. Ça peut même aller jusqu'au conseil vestimentaire. Parce que c'est sûr qu'il y a des personnes qui ne perçoivent pas bien un code de grande entreprise ou un code de petite entreprise communautaire ou association communautaire. Et c'est sûr qu'on ne s'y rend pas de la même manière.
Oui, c'est vrai.
Donc, tout ça, le parrain va aider à vraiment former le chercheur d'emploi et puis le soutenir. Ça, c'est vraiment fondamental. Et on va voir pour ça qu'il y a deux grandes actions très importantes qui découlent de cet accompagnement. Il y a vraiment une action qui est émancipatrice, disons une action qui va libérer un petit peu le candidat parce qu'il va apprendre à réparer les blessures qu'il avait eues à rester longtemps au chômage. Longtemps, okay. Au moins longtemps.
Ouais.
L'effet peut être un peu le même si on est blessé ou on n'est pas content d'être au chômage parce qu'on a eu beau essayer plein de choses, on ne trouve pas. Donc, ça peut devenir très frustrant. On peut se résigner et se dire, ils ne veulent pas de moi, ils ne veulent pas de moi.
Et ça peut paraître beaucoup dans les entrevues, entre autres. Ça peut paraître, la personne...
Elle peut être sur la défensive, elle peut être énervée.
Ou très, 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 très effacée. Mais aussi, c'est peut-être une excellente candidate.
Voilà, manque de confiance en soi ou manque d'estime. Elle ne va pas oser mettre en avant ce que la personne a pu faire, qui correspond justement... Parce qu'elle n'ose plus, elle se dit « mais non, ça ne vaut rien », etc. Donc ça, c'est vraiment le rôle important. Le rôle, c'est l'action émancipatrice que va avoir cet accompagnement. L'autre action, c'est une action qui est adaptatrice et normalisatrice. Là, je m'explique.
Ouais, ça veut dire
alors,
quoi?
Alors, normalisatrice, ça veut dire que, par exemple, le candidat qui ne connaissait pas les codes professionnels d'une entreprise, je ne vais pas citer l'entreprise, disons une entreprise très connue dans l'hydroélectricité, au Québec, disons. Alors, il y a des codes bien précis par rapport, qui peuvent être différents d'une association, en tout cas quand on voit une entrevue, certainement.
Ouais.
D'accord? Donc, il est certain que le parrain qui peut-être connaît très bien ce type d'entreprise va réussir à faire comprendre les codes psychosociaux de ce type d'entreprise, comme il peut faire comprendre à quelqu'un qui a peut-être travaillé pour ce genre de grande entreprise et qui maintenant va chercher dans une association, qui ne doit pas aller se présenter de la même manière à une association communautaire, et il doit rester lui-même, bien sûr, mais les codes psychosociaux ne vont pas être les mêmes. Une autre manière où il doit être, s'adapter, le candidat, c'est par le fait que il va devoir aller faire un petit peu une étude de marché. Tiens, est-ce que ça correspond ou pas? Est-ce que je dois adapter mon CV ou pas? Et je dois m'adapter moi. Dans le fond, je suis peut-être fait pour tel type de job, mais il faudrait que je fasse une petite formation en plus. Donc, ça, c'est une action qui est adaptatrice,
ouais,
et normalisatrice, parce que oui, il va devoir apprendre de nouveaux codes s'il veut réussir, si c'est ce qu'il veut, aller
vaut,
dans ce type d'entreprise.
Ça vaut le coup,
ça
quelqu'un
vaut le
peut
coup
décrocher
parce que
un
ça
emploi.
Marche.
Ouais.
Alors, il y a des études qui prouvent, mais bon, j'ai une étude, par exemple, chez des jeunes qui prouve que plus de 70% après ce type d'accompagnement ont trouvé un emploi. Et c'était des jeunes issus, justement, cette étude de quartiers plus difficiles qui n'avaient pas le réseau d'âge familial ni le réseau d'âge professionnel, qui ne savaient pas comment rédiger une lettre, etc. Donc, il y a vraiment eu un effet aussi normalisateur à ce moment-là.
Exactement.
Il y a l'importance aussi, et c'est pour ça que c'est adaptateur, c'est que le candidat doit apprendre à véritablement connaître une nouvelle méthodologie de recherche. Donc, le parrain va aussi lui apprendre la méthodologie.
Ouais.
Alors, maintenant, ce qui me tient fort à cœur, c'est que nous sommes à Montréal, et ici, il y a un programme extraordinaire qui s'appelle le parrainage professionnel à la ville de Montréal. Alors là, je vous dis tout de suite, il faut passer par le centre local pour l'emploi, mais c'est directement avec la ville que les gens vont traiter. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je voulais en parler, c'est qu'il s'agit d'une période, d'un stage rémunéré de 6 mois où le parrain va non seulement aider la personne pendant 6 mois à la ville de Montréal, il va l'aider avec tout ce qui est transfert d'expertise, avec son intégration à la ville de Montréal. Il va lui apprendre aussi l'importance de réseauter, les codes culturels éventuellement, si la personne vient d'ailleurs que du Québec, alors aussi, et surtout éviter les faux pas.
Et c'est
voilà.
Rémunéré, comme tu dis.
Et mon Dieu, c'est rémunéré.
Ça, c'est intéressant, ça.
Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Évidemment, les gens qui sont intéressés par ce stage rémunéré, il faut qu'ils passent par leur centre local pour l'emploi. Toutes les coordonnées seront mises sur le site. Il faut bien se dire qu'il y a des conditions, évidemment. Il faut évidemment être sans emploi. Il y a d'autres conditions, n'avoir jamais participé à un tel stage, etc. Mais allez à votre centre local d'emploi, il va vous aider, il va vraiment... Et si ça ne vous convient pas, ce type-là de parrainage, il va vous trouver un autre parrainage, comme j'en ai parlé juste avant.
Ouais.
Alors, vraiment, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut remarquer que le parrainage a un rôle vraiment important dans la réussite à la réintégration d'un chômeur sur le marché de l'emploi. Il va l'aider psychologiquement et surtout, il va l'autonomiser. Et il va le faire aussi lui-même, le chercheur d'emploi, c'est-à-dire qu'il va vraiment se stimuler, il va se remotiver. Donc, c'est une aide dans la reconstruction personnelle de son identité suite à certaines blessures, etc. Donc, moi, ce que j'ai à dire ici, c'est que, alors, si vous doutiez encore qu'un parrainage pourrait être utile dans votre parcours ou le parcours d'un ami ou de quelqu'un d'autre...
Allez-y vite.
Allez-y, et puis informez-vous. Donc, il y a différents programmes, comme j'ai dit, la ville de Montréal, des grandes entreprises et votre centre local d'emploi qui est le point de départ pour vous informer sur le sujet.
Et comme tu dis si bien, sur notre site web, antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à Folie douce, on va donner les liens. Là, il y a plusieurs liens que tu nous donnes. Donc, merci. Merci beaucoup, Catherine, pour cette excellente chronique. C'est intéressant et ça touche beaucoup les gens en santé mentale, parce que beaucoup de gens ont de la misère à se trouver de l'emploi. Alors, c'est excellent, le parrainage professionnel. Merci beaucoup et à une prochaine.
Merci, Yvon.
Au revoir.
Au revoir.
Naked as a truth, as a liberated youth. Oh, 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 oh. Uncovered as a newborn baby, as the angel's gonna take me. Oh, 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 oh. Open as a wound, as naked as the moon, shining in a silver blade, glaring as the sun that fades. Won't you? Inside out and upside down, out in plain sight. Naked as the eye that sees your long forgotten memories. Oh, 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 oh. Bare as a craftsman's hand, stripped as a one-man band. Posed as a beggar's feet, sleeping in a cold damn street, limpid as the water in the pictures of the Caribbean. Won't you let me see you? Won't you let me see you? And your bright side, and your dark side, and inside out, and upside down. Prayer, naked as desire. Oh, 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 oh. Shocking as your self-assurance, seeking no acceptance. Oh, 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 oh. Simple as a masterpiece, Picasso's dove of peace, pure as the unadorned early hours of the morn. Won't you? Upside down, and your bright side, and your dark side, and inside out, and upside down, and your bright side, and your dark side, and inside out, and upside down, out in plain sight.
Ici Claire.
Ici Julie.
Du podcast EndoAide.
Vous écoutez présentement
Folie douce.
Nous poursuivons avec l'espresso allongé et ce que tu as entamé avant à la fin de l'espresso, justement, en rapport avec les épreuves, ce qu'elle nous enseigne, mais les citations célèbres par rapport aux épreuves.
Exactement, des grands personnages, mais remarque que nous autres, on n'est pas rendus là encore.
Non, un jour, peut-être on va mais on dit pas tant que ça d'expressions, mais c'est quand même plein de sagesse, ces expressions-là.
Oui, mais remarque qu'il y en a des Québécois, hein, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Moi, je prends ça sur le site Internet qui s'appelle simplement Citation célèbre.leparisien.fr.
Il y en a des gens comme Gilles Vigneault, soit des auteurs, qui ça arrive assez souvent qu'ils vont faire des citations, puis ça peut devenir effectivement célèbre, oui. Parce que c'est plein de sens.
Oui, là. Mais remarque ici, ce qu'on retrouve sur le site, c'est pour la plupart, la grande majorité, c'est des gens qui sont décédés, mais il y a quand même des gens, des artistes ou des hommes politiques contemporains. Il y a même quelques Québécois.
Oui.
Maintenant, il y a M. Yvan Andouard, artiste, journaliste, décédé en 2004. Il avait dit « La littérature Il dit « En littérature, on corrige ses épreuves. Dans la vie, ce sont les épreuves qui nous corrigent.
Ouais. »
Il y avait Oscar Wilde, un écrivain fort connu, irlandais, décédé en 1900. Il avait dit « Si la vie avait une seconde édition, ah, comme je corrigerais les épreuves. »
Ça, c'est sûr. Si on pouvait faire un brouillon et ensuite un propre, peut-être que ça serait mieux. Hein.
Là, je remonte à beaucoup plus longtemps. Il y avait Saint Isaac, le Syrien, qui était évêque, mystique et théologien. Il avait dit « Quand Dieu veut délivrer de leurs tentations ses enfants, il ne leur enlève pas les épreuves, mais leur donne la patience de les supporter. »
Oui, et la force, des fois, de passer à travers, c'est ça?
Oui.
Ouais. C'est moi qui rajoute ça.
Il y a Émile Cioran, est un philosophe. Il est décédé en 1995. Il était aussi poète et écrivain roumain d'origine. Il avait dit « Dans les épreuves cruciales, la cigarette nous est d'une aide plus efficace que les évangiles.
» Ça, on peut remettre... À certaines époques, peut-être.
Il ne parle pas de quelle sorte de cigarette non plus.
Non, c'est ça.
Il y avait Henri-Frédéric Amiel, artiste, écrivain, philosophe, décédé en 1881. Il avait dit « Le bon mariage, c'est l'amitié tendre, l'affection et la fidélité, le secours mutuel dans toutes les épreuves de la vie. Mais il doit se garder des intempérances redoutable de la passion. » Il me semble que ça rend le mariage plate un peu.
Oui, c'est une façon de voir.
Il y a François Mitterrand, homme d'État français, décédé en 1996, on l'a bien connu. Il avait dit « Dans les épreuves décisives, on ne franchit correctement l'obstacle que de face. »
Oui, affrontons l'épreuve et n'ayons pas peur.
Il y a Henri Beck, dramaturge français, né à Paris en 1837. Il avait dit « Les femmes... c'est comme les photographies. Il y a un imbécile qui conserve précieusement le cliché pendant que les gens d'esprit se partagent les épreuves. » Mais tu vois, il y a beaucoup de misogynie dans les grandes citations.
Il faut dire qu'à une autre époque, certaines choses étaient dites qu'on ne dit plus aujourd'hui, qu'on ne pourrait plus dire aujourd'hui.
Il y avait souvent des hommes qui associaient les femmes... ou diable, ou des choses comme ça.
Oui, puis c'est autre temps, autre mère, puis ça fait partie d'un peu de l'époque, j'imagine. Ouais.
Il y avait Yvette Nombert. Il y a très peu de femmes, tu remarques, mais Yvette Nombert est une écrivaine québécoise née en 1918, décédée en 1982. Elle avait dit « Toutes les épreuves ont leur raison d'être, et si on sait les accepter comme il faut, elles peuvent être salutaires. » Ouais. Donc, ça rejoint ce que j'avais dit un peu plus tôt dans l'émission.
Exactement.
Il y a un proverbe pachtoun. Les pachtouns sont un peuple iranien divisé en plusieurs grandes tribus. Et ce proverbe dit « On essaie les chaussures par les pieds et l'homme par les épreuves. »
Ah, c'est sage quand même. Effectivement, oui, parce qu'on peut voir quel type de personne c'est quand la personne gère les épreuves.
Dans les difficultés.
Effectivement. Ouais.
Il y a M. Pharrell Williams, qui est un artiste, chanteur, compositeur contemporain. Il est né en 1973. Il avait dit, écoute-la bien celle-là, il avait dit « Sages sont ceux qui tirent des leçons quand les épreuves sont aisées. Et stupides sont ceux qui n'apprennent que quand les choses se compliquent. »
Ouais.
Fait que tu vois, lui, il dit complètement le contraire.
En fait, il dit comment on peut se prémunir. Tu sais, dans le fond, c'est un peu ça aussi, tu sais, d'être capable de reconnaître et tout ça. Là. C'est un peu ça que je saisis. Là.
Ben, il y a l'air de quelqu'un qui n'aime pas les épreuves difficiles, en tout cas. Tu sais, il aime autant pas passer par là.
Non, c'est certain qu'on ne le souhaite pas.
Ouais. Il y a Mireille Maurice, une auteure canadienne contemporaine. Il a dit, on n'a pas toujours... Elle a dit, on n'a pas toujours ce qu'on mérite. Les épreuves, comme les joies, c'est toujours exagéré. Il y a du vrai là-dedans.
Oui.
Il y a Confucius, un grand...
Oui, souvent cité, d'ailleurs.
Oui, un philosophe chinois qui était né le 28 septembre 551 avant Jésus-Christ. Il y avait déjà des épreuves dans ce temps-là.
Ben oui.
Et il avait dit « Nulle pierre ne peut être polie sans friction. Nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. »
Ça, j'y crois totalement, parce qu'on le souhaite pas, mais à quelque part, ça forme quand même la personnalité et le caractère d'une personne.
Oui, ça reprend un peu ce qu'on avait dit plus tôt.
Effectivement.
Il y a Sénèque, un artiste, dramaturge et homme d'État, philosophe, de l'Antiquité, il avait dit « Un bonheur que rien n'a entamé succombe à la moindre atteinte. Mais quand on doit se battre contre les difficultés incessantes, on s'aguerrit dans l'épreuve, on résiste à n'importe quel mot, et même si l'on trébuche, on lutte encore à genoux. »
Ouais. Peut-être une dernière.
Une dernière. Il y a M. Henri Laborie, chirurgien, médecin, scientifique, décédé en 1995. Il avait dit « Confronté à une épreuve, l'homme ne dispose que de trois choix. Combattre, ne rien faire ou fuir. »
Voilà, ça conclut bien. Merci pour ces citations célèbres sur les épreuves. Merci.
Ma sœur, nous avons des cœurs si à moi et chaque coup que tu reçois ricoche et me frappe deux fois. Je tiens dans ma main ton poing serré et rien ne peut nous résister puisque nous l'avons décidé. Personne n'a jamais
souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca. antenne.qc.ca.
Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. On va y aller avec la nomenclature des chansons. Pierre Laporte, on a écouté en début d'émission « Devant l'homme et le monde ».
Oui, des Sœurs Boulay.
On ne peut entendre « Que passent les vents ».
De Cindy Bédard.
Dans la deuxième demi « Naked ».
De Aliosha.
Et à l'instant, ma sœur.
De Clara Luciani.
Merci pour ton choix musical ainsi que la mise en onde.
Bienvenue, mon cher.
Et merci pour les paroles de sagesse, entre autres, ce que les épreuves nous enseignent, le texte que tu nous rapportais, ainsi que les citations célèbres sur le sujet des épreuves. Alors, c'était fort intéressant. On veut remercier aussi notre invitée en début d'émission, Maryse Beaulieu, qui nous a mieux fait connaître la Fondation Cerveau. Notre collaboratrice Catherine Stassin était aussi des nôtres. Elle nous a parlé de parrainage professionnel. C'était le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.